Bonsoir, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec, en espérant que vous ayez eu une belle journée, puis vous avez eu trois beaux jours de congé aussi. J'espère que vous en avez profité. On continue les émissions avec Marceau Soir, comme à l'habitude. On fait un podcast d'à peu près 50 à 60 minutes, puis vous appréciez la formule de plus en plus. Vous êtes plusieurs à nous faire part que vous appréciez cette formule-là. Donc, on continue, on change rien. Quand ça va bien, on change rien. Mon invité de ce soir, l'excellent Jérémy Demey, qui est humoriste, un gars que j'ai eu la chance de rencontrer il y a de ça quelques mois parce qu'il était de passage à Québec. Salut, Jérémy!
Salut! Merci de me recevoir.
Ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Jérémy Demey, l'humoriste, on le connaît, on a été le voir en spectacle, on le voit régulièrement à la télé, on le voit dans les publicités, on l'entend à la radio dans nos publicités sur les ondes de boulevard. On en sait très peu sur ta vie personnelle, comment t'en es venu à devenir humoriste, comment c'est quand on arrive au Québec avec un accent français de prendre sa place dans le merveilleux monde de l'humour. J'ai tellement de questions avec toi ce soir que je suis pas sûr qu'on va avoir assez de une émission pour passer au travers de toutes ces questions-là. Jérémy Demey, à quel âge aujourd'hui?
41.
41. Et t'as commencé à faire de l'humour en quelle année?
En 2005, fin 2005.
2005, donc ça fait plus de...
19 ans.
Ça fait quoi, 19 ans maintenant?
Ouais, 19 ans, ouais.
Ouais. Est-ce que, avec tout ce chemin parcouru-là, est-ce que tu peux te dire, ben, c'est la carrière que je rêvais ou tu te dis, jamais j'aurais pensé rêver à ce type de carrière-là?
En fait, moi, j'avais un rêve, c'était de faire de l'humour et remplir des salles. Et donc, ce rêve-là a été réalisé. Et ensuite, le reste, je ne l'avais pas nécessairement... en tout cas, il s'est créé dans mon esprit au fur et à mesure, mais jamais j'aurais pensé que j'atteindrais ce niveau-là. En fait, je ne pensais pas, je ne me disais pas ça allait être ça, tu vois. Je ne me disais pas... mais je ne me disais jamais que j'allais écrire des livres. Je ne me disais jamais que j'allais avoir autant de succès à écrire des livres. Je ne me disais jamais que... J'allais être porte-parole d'un brand pendant aussi longtemps. J'avais pensé à ça. Ça arrivait un peu au cours du chemin, quoi.
Ouais. Et là, t'es dans la quarantaine, jeune quarantaine. T'as grandi en Europe?
J'ai grandi en Europe, ouais.
Pendant combien d'années?
Jusqu'à l'âge de 19 ans. Après, je suis parti vivre à Cuba pendant 6 mois. Ouais, je parle couramment espagnol. Ouais. Après, je suis parti vivre un an et demi aux États-Unis pour finir mes études à côté de Pittsburgh. Et ensuite, je suis venu au Québec.
OK. Et quand tu étais en Europe jusqu'à l'âge de 19 ans, est-ce que tu regardais le milieu de l'humour aussi? Puis qui étaient les gens qui ressemblaient plus peut-être à ce que tu voudrais faire plus tard?
Au Québec, tu veux dire, ou en général?
Quand tu étais en Europe, quand tu regardais les humoristes à la télé. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, je regardais des émissions, des films avec Louis de Funès, que j'adorais.
Okay, ouais. Quand moi, Louis de Funès... jeune, j'ai eu Cavana, qui m'a marqué. Anthony Cavana.
Ouais.
Ouais, j'ai eu Gad Elmaleh, qui m'a marqué. J'ai eu un duo qui s'appelait Eric et Ramzy, qui est un duo d'humoristes français. Un gars qui s'appelle Jamel Debbouze.
Ouais.
Je
ne
sais pas si tu le connais. Bah,
ouais.
Un français-marocain... excellent. Donc, c'est cette génération-là, moi, qui m'a beaucoup marqué quand je suis jeune.
Jamel Debbouze, plus au Québec, on l'a connu quand il a fait Astérix et Obélix.
Oui, exactement. Ce gars est un excellent humoriste,
ouais.
Autre qu'un acteur, ouais.
OK. Et quand tu étais jeune, donc, tu rêvais de remplir des salles déjà?
Non. En fait, ce rêve-là, il paraît pendant mes études. Je fais des études de marketing et je rencontre quelqu'un, un ami à moi. Et on est tout le temps en train d'être ensemble, tout le temps en train de faire des cons. Et puis, un soir, on est dans un bar. Et le propriétaire du bar nous voit déconner et il dit « Est-ce que vous aimeriez prendre la scène dans 2 semaines ?» On fait un espèce de concours de chant amateur. Et on dit oui. Et on monte sur scène 2 semaines plus tard et ça a été un coup de foudre. Et je me suis dit « Plus jamais j'aurai le plan B. » C'est devenu mon plan A.
Et c'était à quel endroit ça ?
C'était à Marseille, dans le sud de la France, où je faisais mes études. Et j'avais 19 ans. Tu vois, et ce rêve-là est arrivé clairement. Et jamais lâché ce rêve-là depuis.
Puis t'avais pas peur de faire un premier spectacle devant public? Parce que bien souvent, moi j'étais à la radio, je me cache, je suis dans mon studio, je suis dans mon univers, j'ai mes collègues de travail à qui je discute régulièrement en ondes, mais hors d'ondes. C'est devenu des amis avec le temps. Quand tu te présentes sur un stage, puis t'as à dévoiler ton art à tout le monde, pour toi, ça a été extrêmement naturel dès le départ de pouvoir démontrer que tu pouvais être Jérémy Demey, le gars qui faisait de l'humour, le gars qui faisait des prestations devant la foule?
Ouais, je pense que c'est venu naturellement. Il n'y a pas eu de questionnement, ça a été une évidence. Une évidence d'aller sur scène quand il a proposé ce monsieur-là et une évidence que ça allait être ça ma vie. C'était limpide, même. Je ne sais pas comment l'expliquer. Tu sais, un peu comme dans les Walt Disney, quand il y a une espèce de lumière au-dessus, là, qui fait... C'est ça l'image que je garde. C'est vraiment quelque chose de... de clair,
OK.
de limpide. C'était ça, mais il n'y avait pas autre chose. Et jamais plan B d'ailleurs. Jamais, ouais, mais si jamais tu n'arrives pas en humour, tu vas faire quoi? Je vais y arriver. Je sais pas par où je vais passer, je sais pas par quel chemin, je sais pas comment ça se passait, mais je vais y arriver. Tu vois, j'ai eu raison de croire en moi finalement.
Et l'homme qui vous a permis de faire ce spectacle-là, il avait vu quoi en vous deux?
Ben en fait, c'était un petit bar qui était vide, il y avait juste lui, nous et deux, trois amis. Il était à table derrière et il nous a vu être niaiseux. Il nous a vu jaser entre nous, faire des blagues, et du rire à nos blagues. Je te dis, écoute, c'est un film. C'est un film où tu vois que ce gars-là, dans un bar, un lundi soir, il n'y a personne dans le bar. Personne. Et le gars me dit, ah, vous voulez, c'est mon bar, tout ça. C'est quoi les chances qu'on soit assis là? C'est quoi les chances qu'on. Tu vois, je veux dire, c'est des probabilités qui sont extrêmement minimes. Et pourtant, ça a été ça. Et ça a été enligné. Comme quoi, il doit y avoir une espèce de destin, une espèce de. Tu vois, je peux pas croire autrement.
Il a suffi d'une seule personne qui a une pensée au bon moment, puis toi, ben, ça a changé le cours de ta vie. Ça a été là où tu as dit, ah, c'est exactement ça que je veux faire. C'est fou pareil, qu'est-ce qui peut nous arriver dans la vie, hein, sur notre chemin. Ce gars-là, tu le connaissais pas, tu connaissais pas sa réputation, tu savais pas qu'il était propriétaire, puis pouf, il t'a donné une chance, puis, et c'est là que c'est parti.
Hein, plus que ça, il faut que je rencontre mon ami durant mes études dans cette école-là.
Ouais.
Il faut qu'on soit complice, il faut qu'on soit ce soir-là dans ce bar-là, à cette table-là. Je dirais, il y a une chance sur 500 millions que ça arrive, que le gars soit derrière, qu'on fasse la bonne blague, qu'il fasse rire. Je dirais, ces probabilités rétrécissent à chaque fois. Et ça a été ça même. Il faut croire qu'on est placé au bon endroit même. J'ai l'impression que, en tout cas, moi, c'est ma croyance que je suis tout le temps au bon endroit, au bon moment, même quand il m'arrive des choses plus difficiles. Je pense que, parce que ma vie a toujours été guidée comme ça, a toujours été guidée. Et quand je regarde en arrière, je dis, ah, c'est pour ça que j'ai vécu ça pour arriver à ça, puis à ça, puis à telle personne, puis à ça, puis à ça. Et on dirait que tout était un peu tracé. Tu vois, où tu te dis, mais c'est quoi les chances que ça arrive? Elles sont tout le temps minimes, et pourtant elles arrivent. Donc tu te dis, il y a quelque chose d'autre que juste ça, tu vois. Ou alors j'ai beaucoup de chance.
Jérémy Demé, enfant, son quartier ressemblait à quoi? Il a grandi, c'est quoi, c'était quoi ses sports, ses loisirs à cette époque-là?
C'est marrant que tu parles de moi à la troisième personne du singulier. Jérémy Demey, il a grandi dans
Le
un
très
centre
grand,
équestre.
le très grand Jérémy Demey.
Jérémy Demey, il a grandi dans un centre équestre. Mon père adorait monter à cheval, donc on vivait dans un centre équestre.
OK.
Et donc il allait faire du cheval tous les week-ends, parce que ça lui faisait du bien.
Est-ce que
Et donc
c'était
j'ai grandi là.
une banlieue? T'as grandi en banlieue, en campagne?
Ouais, c'était en campagne. C'était en
OK.
campagne. Et donc j'allais jouer dans la forêt, j'allais jouer sur le centre équestre, j'allais voir les chevaux, j'allais de 0 à 8 ans. Ensuite, mon père décède quand j'ai 8 ans, et là, on déménage avec ma mère en ville, une ville, s'appelle Dijon, qui est une ville de Bourgogne, qui est au milieu, à l'est de la France, une ville comme Québec. Ça ressemble beaucoup à Québec, au passage.
OK.
Et donc, c'est une ville moyenne, au niveau habitant, mais charmante, le fun, avec des belles rues comme Québec, exactement Québec. Et puis, je grandis là, et je reste là jusqu'à 18 ans. Et après, je suis parti faire une partie de mes études dans le sud de la France, et après, Cuba, États-Unis et
OK.
Montréal.
Cuba, je vais t'avouer que j'ai plein de questions aussi. Est-ce que tu voulais être le prochain Che Guevara? Qu'est-ce que tu es allé
Ah non,
faire à
non.
Cuba?
J'avais un stage à faire dans mes études et à l'époque, mon oncle avait une chaîne de boulangerie. Il avait ouvert une chaîne de boulangerie à Cuba. Et je me suis dit, eh, ce serait le fun d'aller apprendre l'espagnol puis aller vivre quelque chose de nouveau, tu vois. Et puis je suis allé et j'ai passé 6 mois extraordinaires. Officiellement, je devais faire un stage. J'ai fait 2 jours de stage, pour être très franc avec toi. 2 jours de stage. J'ai fait 6 mois d'apprendre à danser la salsa, faire du sport, côtoyer des charmantes demoiselles cubaines. C'était hyper agréable, c'était un moment de ma vie où tu sais, t'as 18, 19 ans, 20 ans, les hormones sont en furie, donc c'était un moment parfait. Et donc c'était vraiment, ouais. Et puis et surtout, tu sais quoi, je me suis rendu compte, j'ai fait rien de stage, mais c'est là où tu te rends compte que finalement, tout ce qui me reste, ben, c'est l'espagnol qui me restera toute ma vie.
Ouais.
C'est l'expérience d'être adapté à un pays que je connaissais pas. C'est plein de qualités que finalement, vont me servir toute ma vie.
Une
Alors
culture
qu'avant,
à
j'avais le marketing,
une culture à apprendre.
culture à apprendre, une
Ouais.
langue à apprendre. J'étais tout seul, il n'y avait pas d'autres Français. J'avais pas le choix de rapidement apprendre à parler leur langue, sinon j'étais faite, sinon je
Ouais.
me faisais chier seul dans mon coin. Fait que j'ai appris rapidement l'espagnol. Tu vois, 20 ans plus tard, je parle encore couramment. J'ai gardé encore ça.
Ouais.
Tellement que souvent, quand je vais dans les pays du Sud, République dominicaine, Cuba, etc., ils pensent que je suis argentin.
Ben, tes traits de visage, effectivement, là, pour quelqu'un qui t'a jamais vu, t'as effectivement l'air d'un Argentin,
Non, mais l'accent à l'air argentin, il paraît.
là. OK. Mais tes traits de visage aussi, non?
Ah, ben, je sais pas si c'est une tête
Non.
d'argentin, je sais pas, on m'a jamais dit ça.
Ben, je te le dis, là, au niveau des traits du visage, tu ressembles beaucoup à un Argentin. Est-ce que dans ta famille, parce que tu dis que ton oncle avait une chaîne de boulangerie à Cuba, est-ce que c'était un Cubain d'origine, ton oncle?
Non, 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 il est français d'origine, il vient de Marseille, mais c'était un businessman. Et donc, il a fait beaucoup, beaucoup d'entreprises, dont une chaîne de boulangerie à La Havane qu'il a gardé quelques années, puis après qu'il a revendu.
Mais tu vois, moi,
Mais
j'étais persuadé, Jérémy Demain, que si on voulait s'établir à Cuba, fallait absolument avoir une entité cubaine avec soi pour pouvoir faire affaire là-bas, sans quoi les gens à l'extérieur pouvaient pas partir, aller là-bas puis partir une entreprise. C'est quelque chose que tu m'apprends, là.
en fait, tu fais affaire avec le gouvernement cubain. Ça veut dire que la moitié t'appartient et l'autre moitié appartient au gouvernement
Ah,
cubain.
voilà, OK.
Et donc, dans ce cas-là, tu as le droit et il faut que tu aies au moins un associé qui vive sur place. Ce qu'ils ont fait aussi.
Ouais. Puis
Et
évoluer,
donc.
et quand on est un Français, puis on arrive à Cuba, bon, on apprend à vivre avec des gens qui vivent une extrême pauvreté ou une pauvreté. Ton expérience avec ces gens-là, est-ce que ça a été si, est-ce que ça a été le choc, un choc culturel, des gens qui sont vraiment heureux avec absolument rien parfois, là?
Ouais, ça a été un choc. Non, ça n'a pas été un choc. On dirait qu'à cet âge-là, je me suis fondu dans la masse très rapidement parce que moi-même, j'avais plus d'argent qu'eux étant blanc d'Europe. Mais ce que je veux te dire, c'est que je vivais avec eux. Je vivais chez l'habitant. Donc voilà, mon meilleur ami, là, était cubain. Il n'avait pas nécessairement beaucoup d'argent. Et puis, ouais, je me fondais dans la masse, en fait. Je mangeais du riz, du poulet à 1 $. J'ai vécu avec eux. On dirait que c'est devenu ma vie. Il n'y avait pas de. Tu vois, si aujourd'hui j'y allais ou j'ai une certaine situation financière, je verrais un décalage. Mais à l'époque, on dirait que ça a été naturel à cet âge-là. Ça a été, c'est qu'à long terme, j'ai trouvé ça lourd de vivre dans un pays communiste parce que c'est difficile, tu vois. C'est difficile pour plein de choses. Il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de pauvreté, effectivement. Donc, à moyen terme, ça a été difficile. Mais à court terme, j'ai adoré ça.
Puis est-ce que ça a eu un changement sur toi, sur l'humain que tu es? C'est-à-dire, là, tu arrives d'Europe, vous êtes quand même bien nantis, tu arrives là-bas, puis tu te rends compte que les gens peuvent être heureux même en n'ayant absolument rien. Aujourd'hui, est-ce que ça a encore des impacts de dire, j'ai pas besoin de m'entourer, avoir une immense maison, la plus grosse des voitures. Est-ce que tu y penses encore à cette vie-là? Parce que moi, étant étudiant, je suis parti très jeune, je suis allé explorer ce qui se passait du côté des États-Unis, mais je partais avec rien, Jérémy, je dormais dans ma voiture. Tu sais, le van life, là, que tout le monde est rendu dans le van life aujourd'hui, moi, je le faisais quand j'avais 16 ans. Je partais de Québec, je passais par la Beauce, puis je m'en allais aux États-Unis, puis je dormais dans ma voiture, puis je travaillais là-bas un petit peu pour essayer de subvenir à mes besoins, mais j'avais du plaisir avec absolument à rien. Je pense qu'on a perdu la connexion avec Jérémy Demé, donc on va essayer de se rebrancher dans les prochaines secondes.
Suis revenu, excuse-moi. Excuse-moi, désolé, mon erreur.
Il n'y a pas de
M'excuse.
problème. Donc, je vais reprendre ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, ce que tu as vécu là-bas, ça t'apprend à vivre avec peut-être un peu moins puis à être très heureux? Parce que moi, ça a été le cas. En allant voir ailleurs, dans des endroits peut-être un peu plus pauvres, je me suis dit, OK, ben, tout le matériel que j'aurais aimé avoir plus tard, pas nécessairement besoin d'être ça pour être plus heureux.
Pas du tout. Moi, ça m'a fait pas du tout ça. Non, on dirait que ce qui m'a fait du bien, c'était m'adapter à une nouvelle culture, apprendre l'espagnol. J'avais besoin de beaucoup de confiance et de reconnaissance à l'époque. Et je l'ai trouvé, je pense, via les femmes là-bas, qui sont absolument merveilleuses, les femmes cubaines. En tout cas, c'est l'image, c'est le souvenir que j'en ai. J'étais très jeune, donc c'était hyper agréable. Mais non, le côté pauvreté m'a pas nécessairement. Marqué comme toi, ça a pu te marquer aux États-Unis, je pense. Non, ça n'a pas fait ça du tout.
Ouais, mais c'est
Enfin, c'est
plus.
pas le souvenir que je garde de ça, de cette époque-là.
Ouais, moi,
Donc, non.
ça m'avait marqué parce que j'ai passé par les États-Unis, j'étais vers la Louisiane. Par
Ouais.
la suite, je suis descendu encore plus bas, j'étais allé au Mexique, puis là, j'ai fait le tour du Mexique en voiture aussi. Puis c'est là où j'ai côtoyé des communautés qui n'avaient absolument rien. Il y avait un ballon pour 20 enfants. Un ballon pour 20 enfants, puis tous ces enfants-là étaient extrêmement souriants, puis tu voyais que le linge qu'il y avait sur le dos, ça faisait un bain que ça n'avait pas été lavé. Je me suis dit, OK, ben, le bonheur est peut-être pas dans le matériel, puis on dirait que toute ma vie, ça m'a suivi. Fait que quand on regarde mon linge, on comprend pourquoi je t'habille de même, là. Je mets pas
Non, tu vois,
vraiment.
moi, le bonheur et la joie, je le trouvais ailleurs, je le trouvais dans la thérapie. Moi, j'ai besoin de passer par un autre chemin que toi pour trouver ce bonheur et cette joie-là.
OK, t'étais pas quelqu'un d'heureux facilement?
Je pense que d'apparence, d'extérieur, j'arrivais à montrer une bonne façade de gars heureux, mais j'ai réalisé, tu sais, ayant perdu mon père très jeune, puis je ne me suis pas connecté à ça tout de suite. Cette souffrance-là, on dirait que ça a tellement été douloureux quand j'avais 8 ans que je me suis coupé de moi-même. Ça faisait tellement mal que mon cerveau s'est dit non, 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 c'est trop brutal, c'est trop gros, c'est trop lourd. Et je me suis coupé de mes émotions, je me suis coupé d'une partie de moi. Ce qui fait qu'il y a une partie de moi qui était heureux, Mais celle pas résolue, elle a été profondément malheureuse et seule, et j'ai besoin d'aller voir ça, guérir ça. Ça a pris beaucoup de temps. Et enfin, j'ai terminé par trouver le chemin de la sincère joie. Mais ça a pris des années, là, je te parle 10 ans de thérapie, là. Je te parle 10 ans
Ouais.
de thérapie, plusieurs thérapeutes. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps pour réparer ça.
Puis
Merci beaucoup, ça.
au travers de cette tristesse-là, tu faisais de l'humour quand même.
Je pense que c'est pour ça que j'ai commencé l'humour. J'ai commencé l'humour parce que j'avais besoin de reconnaissance, j'avais besoin d'amour, j'avais besoin du regard des autres, j'avais besoin de plaire, j'avais besoin de tout ce que j'ai manqué aux yeux de mon père. Je
Ouais.
pense qu'un enfant de 8 ans, tout ce qu'il veut, c'est le regard de son père, c'est l'amour de son père, c'est la reconnaissance. Et ça, moi, je ne l'ai pas eu. Un, parce qu'il est mort, et deux, parce qu'avant sa mort, il était très occupé, il travaillait beaucoup, il
Ouais.
était très axé sur sa réussite, sur son succès à lui. Donc, je n'avais pas un père qui était très présent, ni physiquement, ni émotionnellement. Donc, j'ai manqué beaucoup à ce niveau-là. Et donc, je suis allé le chercher ailleurs. Ce qui d'ailleurs a été un cadeau de mon père. Sans ce trou dans mon âme, j'aurais jamais couru après ce succès-là, après la carrière, après l'humour. Et quelque part, est positif. Sinon, je ne ferais pas ce métier-là.
Ouais.
Et le reste, le négatif, entre guillemets, toute la douleur, ça là, j'ai dû aller la traiter. Ça a pris du temps. Beaucoup de temps. Mais maintenant, je peux dire que ça y est, à 41 ans, je suis enfin, sincèrement joyeux.
Ouais. Puis est-ce que tu es différent avec tes enfants, avec tout ton parcours, que ce que tu aurais été, exemple, si ton père avait été présent toute ta vie et s'il était encore aujourd'hui?
Très bonne question, merci de la poser exactement. En fait, je suis devenu le père que j'aurais aimé avoir aujourd'hui parce que mon père est mort. Si mon père était encore vivant, j'aurais couru après son regard, son approbation, sa reconnaissance, comme la plupart des fils, au passage. Et je pense que j'aurais fait un autre métier, un métier peut-être plus classique. Et je pense qu'aujourd'hui, je serais encore en train de courir après ça parce que j'aurais pas eu cette souffrance-là, donc j'aurais pas eu conscience de ça. Là, parce qu'il est mort, ça m'a fait un trou énorme à l'intérieur de moi. Et des années plus tard, je suis une dépression. Et la dépression mène à la thérapie. Et la thérapie mène à comprendre tout ça. Mène à comprendre que quand j'étais petit, mon père voulait réussir. Et donc, moi, en 38 ans, je me suis dit, bah, pour que mon père me regarde et qu'il m'aime, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bah, faut que je fasse comme lui. Faut que je réussisse. Donc, je me suis mis à une espèce de programme inconscient de réussite que j'ai gardé toute ma vie. Et donc, un jour, je me rends compte que toute la réussite que je voulais, que ce soit par l'argent, par les fans, par tout ce que tu veux, et bien en fait, c'est parce que je courais après l'amour de mon père. Et souvent, on pense qu'on dit « Ah, j'aime ça », mais il y a toujours une raison en dessous, inconsciente. Et ma raison à moi, c'est que je courais après la reconnaissance de mon papa. Et donc, maintenant que j'ai comblé ce trou-là, parce que finalement, c'est un trou, hein, c'est comme une passoire. T'as un trou, t'as beau mettre 150 litres d'eau, il restera rien à la fin. Et j'avais beau gagner de l'argent, j'avais beau avoir du succès, j'avais beau vendre des 100 000 tickets, la Caroline, ça comblait 5 secondes et après, je redevenais vide à nouveau. Fait qu'à un moment donné, tu te rends compte que c'est pas ça que tu as envie. Tu as besoin d'aller combler ça par autre chose.
Ouais.
Et ça a été de la thérapie. Et j'ai compris tout ça, j'ai guéri tout ça. Et Oster, mon métier, je l'aime encore, mais je le fais avec un moteur différent, qui est le moteur de la joie de faire mon métier et non de courir après de l'amour.
Puis est-ce que tu avais eu un modèle masculin qui avait pris place après le décès de ton père?
En fait, j'ai pris tous les modèles que je pouvais.
Ouais.
J'ai pris autant mon oncle que Brad Pitt.
Ouais.
C'est con ce que je vais te dire, là. Mais quand tu as 8 ans et que ton modèle masculin part, eh ben, tu es pris à qu'est-ce que je fais? Tu deviens quelque part ton propre modèle et je me suis inspiré de plein de choses, de plein de gens. J'ai pas eu le choix parce que ton modèle est plus là.
Ouais.
Qui c'est qui va t'apprendre à te raser? Qui c'est qui va t'apprendre à bien parler? Qui c'est qui va te... Il est plus là, ton père. Il est plus là. Le côté masculin qui est hyper important, qui est la reconnaissance, qui est la réussite, qui est la sécurité. Moi, d'un coup, ça disparaît. T'imagines la panique pour un enfant de 8 ans? J'ai dû me débrouiller et ça m'a amené beaucoup de beau et beaucoup de moins beau. Et maintenant, j'ai juste gardé, je pense que j'ai juste gardé le beau aujourd'hui. Ça, c'est ça qui est génial. C'est pour ça que je dis
Ouais.
merci à mon père d'être mort parce que sans cette mort-là, ben, j'aurais pas la vie que j'ai aujourd'hui.
C'est une discussion un peu profonde, là, puis tu sais, des fois les gens disent « Ah, ben on parle avec Jérémy Demé, ça va être léger », mais moi je trouve qu'il y a quelque chose à apprendre de ce que tu viens de mentionner là. Pour plusieurs, je pense que ça va leur dire quelque chose, ils sont dans leur véhicule présentement, puis ils disent « Tabarouette, tu sais, moi mon père est encore en vie, mais il travaillait tellement tout le temps qu'il n'était pas là, puis encore aujourd'hui, je recherche sa reconnaissance alors que j'ai 40, 50 ans, tu sais. » Il y a... Mais moi, ce que j'aime, c'est que ça a pris 10 ans, puis tu as réussi à guérir ça aujourd'hui. Mais tu t'es donné la peine de guérir ça. Il y en a combien qui vont vivre avec ça toute leur vie, puis qui vont traîner ce malaise-là, ce mal de vivre-là toute leur vie, tu sais?
Je dirais que la plupart des gens décident de garder ce mal. Un, parce qu'ils sont pas conscients de ça. Deux, parce que s'ils deviennent conscients, ils disent ah non, ça fait trop mal. Par exemple, ma sœur qui a vécu exactement la même chose que moi, était à côté de moi le jour où mon père est mort. On vit la même scène au même moment, sauf qu'elle a 4 ans, 3 ans et demi plus que moi. Donc elle est plus consciente de c'est quoi la mort. Ma sœur a jamais voulu aller là. Et on en parlait encore ensemble il y a une semaine, puisque je suis allé en France pour le mariage de ma de ma demi-sœur. Et on en a parlé ensemble, et elle me disait qu'elle n'a jamais voulu là parce que c'est une boîte de Pandore, je l'ai enterrée. Parce que je sais que si je vais là, ça va faire trop mal. Donc elle a décidé de la fermer, cette boîte-là,
OK.
et de la laisser dans un coin scellé. Et elle a compensé. Elle a compensé avec d'autres choses. Elle s'est créée une belle vie malgré tout, mais elle a compensé avec ma mère, beaucoup. Elle est très, très, très proche de ma mère. Trop proche de ma mère. Trop proche, quelque part. L'air de dire, elle a compensé avec ma mère, au lieu d'aller vraiment traiter le vrai sujet. Et d'ailleurs, on a eu des discussions, puis je lui ai dit, mais le jour où maman va mourir, j'espère dans longtemps, mais le jour où elle meurt, tu vas te retrouver face à ta douleur.
Ouais.
Et là, possiblement, je sais pas ce qui va arriver, mais en tout cas, je te souhaite que ce soit pas trop difficile, quoi. Parce que si tu traites pas ça, un jour, ça remonte. Ça remonte par des comportements, par des mots, par des ruptures, par de la drogue, par, tu vois, c'est là, ça existe. Fait que si t'as une douleur inexprimée à l'intérieur de toi, puis on en a tous, ou on va tous en avoir, si tu prends pas le temps de la traiter, à un moment donné, elle est là. Donc, elle va avoir des impacts. Elle va avoir des impacts sur tes relations, sur ta santé, sur ta façon d'être, sur ta relation avec tes enfants, forcément. Je pense que c'est très douloureux et très difficile de faire face à ça. Et en même temps, je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire. Parce qu'ensuite, une fois que tu enlèves ça, ben, tu te libères et tu vis beaucoup plus léger. Et puis, t'es la personne que tu aurais voulu être, finalement, libre, légère, joyeuse. Et c'est ça le but de la vie, je pense. Le
Oui.
seul point commun qu'on a tous en tant qu'être humain, je pense, c'est qu'on veut tous être heureux. Il n'y a personne qui se lève le matin et qui dit, il me semble que je passerai une bonne journée de marde, moi. Je vivrai de la marde à longueur de journée. Il n'y a personne qui se dit ça. On veut tous être heureux, on veut être joyeux, on veut tous avoir de l'argent pour pouvoir triper, à faire tout ce qu'on veut dans la vie. Si on veut des enfants, on veut pouvoir jouer avec eux, on veut pouvoir être libre, on veut pouvoir faire le métier qu'on aime, on veut pouvoir se sentir joyeux, on veut pouvoir baiser, on veut pouvoir. Tu comprends? C'est ça qu'on a envie en tant qu'être humain. C'est ça la vie. Mais souvent, bah, on s'empêche de pouvoir vivre ça par des blessures inconscientes. Ou alors on a l'impression que, mais il y a quelque chose qui tourne X, un peu d'anxiété, un peu de peur, un peu de stress, et ça reste, il y a quelque chose qui est là, une espèce de sous-sentiment sous-jacent, tu sais pas trop c'est quoi, mais et que tu te dis je vais prendre des pilules, hein, des antidépresseurs. Souvent les médecins t'en prescrivent. Hein. Le Canada, c'est un des pays qui prennent le plus d'antidépresseurs.
Le
Et
Québec, entre
pourquoi
autres.
on prend autant d'antidépresseurs? Parce qu'il y a des choses inconscientes qui ne sont pas réglées. Une fois que c'est réglé, tu n'as plus besoin de ça. Une fois que tes problèmes sont réglés et guéris, tu n'as plus besoin d'alcool, tu n'as plus besoin de jeu, tu n'as plus besoin d'aller courir après toutes les femmes ou tous les hommes de la Terre, tu n'as plus besoin de. Tu peux juste être bien, mais ça prend du temps. Il n'y a pas de shortcut. Si j'ai appris une chose dans ce cheminement-là, c'est qu'il n'y a pas de shortcut à vouloir se guérir. Il y a un chemin, il faut le faire, prendre le temps de le faire. Et il n'est pas agréable tout le temps, mais il est ô combien valorisant à la fin.
Jérémy, demain, on revient à Cuba. Pendant quelques mois, tu as été faire un tour à Cuba. Tu étais très jeune à l'époque. Tu as appris ton espagnol. Tu as appris à danser, mon salopard. Donc, dans un bar, c'est toi qui me fais mal paraître auprès de ma blonde en disant, regarde, lui, sait danser. Et toi, tu te contentes de boire ton verre, juste au bar en tapant du pied. Par la suite, tu es parti autour de quoi, quelques mois? Tu me dis 6 mois tout à l'heure?
Ouais, à peu près, ouais.
Et t'es parti aux États-Unis découvrir une autre culture. Bon, t'avais la culture européenne, après ça, t'as connu la culture cubaine, t'as connu ce que c'était que de vivre dans un pays où la démocratie n'existe pas. T'arrives aux États-Unis, pourquoi?
Parce que je faisais mes études, une fois de plus, je continuais mes études, et j'avais un an et demi à faire dans une université américaine. Je veux dire qu'on appelait un double diplôme, un diplôme français et américain. Et donc, je pars aux États-Unis, c'était prévu depuis le début, pour finir mon diplôme. Et donc, j'arrive là et je vis ma vie à l'américaine, sur un campus américain, comme quand on voit dans les films, à vouloir faker des cartes d'identité pour sortir dans les clubs, parce que là-bas, c'est 21 ans.
21, ouais.
Fait que, tout ça, je l'ai vécu, c'était génial. C'était un beau moment de ma vie qui a duré un an et demi, où j'ai vécu en coloc avec mon meilleur ami de l'époque.
Est-ce que tu es
C'était.
rentré dans une secte, là, les fratries à l'américaine?
Non, ça, je l'ai pas fait. J'ai un ami
Non.
qui l'a fait, moi, je l'ai pas fait. Mais ça avait l'air le fun, mais non, moi, j'ai pas. Je faisais party avec eux, mais je suis pas rentré dans la fratrie.
OK. Puis là, tu as été là pendant un an?
Un an et demi.
Un an et demi, puis c'était à quel endroit précisément?
Ça s'appelait Altoona. Altoona, c'est un petit bled perdu à côté de Penn State
OK,
University
oui.
et à côté de Pittsburgh, entre Pittsburgh et Philadelphie.
OK. Puis qu'est-ce qui t'a marqué chez les Américains en arrivant là-bas?
Qu'est-ce qui m'a marqué? C'est une bonne question.
Moi, ce qui m'avait marqué quand j'étais très jeune, c'est le multiculturalisme où tout le monde avait des accents. Tout le monde avait un accent, que ce soit un accent français, que ce soit un accent espagnol, que ce soit un accent turc. Je trouvais ça beau, ce multiculturalisme-là, que tout le monde puisse vivre ensemble. J'ai passé 6 mois à New York, donc tu comprends que les diverses communautés, je les ai toutes côtoyées. Puis je trouvais ça incroyable que tout ce beau monde-là puisse vivre ensemble dans la paix la plupart du temps.
Ouais, mais tu sais, moi, je viens de la France et la France, il y a eu beaucoup d'immigration.
Ouais.
Donc, il y a beaucoup, beaucoup à la base de cultures différentes et de langues différentes en France. Donc, moi, j'ai grandi là-dedans. J'ai
OK.
grandi, il y a des Marocains, il y a des Algériens, il y a des Turcs, il y a des Italiens. Et partout, partout, ça parle toutes les langues. Contrairement au Québec, où il y a peut-être eu moins d'immigration. Et donc, moi, comme j'ai grandi là-dedans, c'est pas quelque chose qui m'a marqué. C'est ma vie, en fait. Il n'y a pas quelque chose de. Tu vois? Donc, non, je ne sais pas ce qui m'a marqué. Rien de spécial, en fait. Je pense que j'ai pas de souvenir où je me suis dit ça m'a marqué. Peut-être les grosses voitures, les grosses
Ouais.
rues.
T'avais pas l'impression que la vie allait plus vite chez les Américains?
Non, parce que moi je suis dans une petite ville. Peut-être si j'avais été à New York ou Los Angeles,
Ouais.
là c'est un pays qui est rapide. Mais moi c'était un petit village. Alors. Moi c'était Alma où je vivais.
OK.
Tu comprends? Moi je vivais pas à Montréal. Là. Moi je vivais à Alma. Là. Moi je vivais à Chicoutimi. Là. C'est là-bas où je vivais. Là. Tu vois, un petit village où tout le monde se connaît. C'est le fun. Et en même temps tout le monde se connaît. Fait qu'il y a des pour, il y a des pour et il y a du contre. Mais c'est vraiment un petit village, une petite ville universitaire. C'est là où je vivais. Puis ouais. J'ai aimé ça, mais non, moi, ça allait, le rythme allait doucement, moi, vu que c'était un petit bled.
Tu disais tout à l'heure que tu étais retourné en France. Est-ce que tu reconnais encore la France depuis que tu es parti à tes 19 ans? Est-ce que la France a beaucoup changé? Est-ce qu'elle s'est améliorée ou on s'est perdu un peu? Un peu comme Québec, ça peut probablement s'être perdu aussi dans les dernières années au niveau de l'intégration des nouveaux arrivants, où on n'est même pas capable de les loger actuellement. Puis on se dit, OK, on les accepte, mais on n'a plus de logement pour eux, ce qui fait en sorte que le prix des logements est exorbitant. Puis ils doivent vivre à plusieurs dans un logement. Je sais qu'en France, il y a des cités où ça devient un peu dangereux d'aller là, si tu es un blanc-bec. Est-ce que tu reconnais ta France?
Ouais, je reconnais la France, mais je pense que je la vois différemment parce que moi, j'ai changé. Et j'ai réalisé que la vie est beaucoup plus agréable ici au Québec. Tu vois? Et je pense que comme je n'avais pas connu ça avant, je ne le voyais pas, mais en ayant vécu le Québec et en ayant vécu les voyages, en ayant vécu autre chose que la France, j'ai réalisé que la France n'était pas un pays où je voulais vieillir, en fait, après avec, surtout après avoir vécu le Québec. Je suis trop bien ici, en fait. Il y a de la place, c'est large. Tu sais, il y a quelque chose qui me marque souvent quand je vais en France, c'est que la plupart des maisons en France, il y a des barrières devant. Il y a des murs, il y a des portes, il y a des grilles. T'arrives au Québec, il y a juste une porte entre à l'intérieur de chez toi et la rue. C'est quand même fascinant, là. Entre
Ben
la rue et ton salon, il y a une porte. En France, t'en as deux ou trois des portes. Entre ton salon et la rue. Et tu vois, c'est ça la différence. C'est que je pense que on est plus, on a plus peur en France et on est plus confiant au Québec. Ça, c'est une preuve. C'est une preuve totale de ça. Tu vas à Paris, tu as 3-4 portes avant d'entrer chez toi. Donc il y a plus de protection, il y a plus de peur, il y a plus de monde aussi. Beaucoup plus de monde dans un pays qui est beaucoup plus petit. Je crois que le Québec représente 4 fois la superficie de la France, avec 10 fois moins de gens. T'imagines la différence?
Ouais. Mais en fait, ouais, mais la France est habitée, dans le centre et le bas de la France est habité. T'sais,
Ouais, tout habite en France.
parce que nous, quand on regarde le Québec, c'est plus au sud qu'on habite, là, mais le reste, y a encore des gens, mais c'est des espaces et des espaces, des espaces libres, là. On n'est pas beaucoup, on
Parce
est
que
quoi, 9
même où on
millions?
habite au Québec, il y a de la place.
Ouais.
T'as de la place. T'as pas, tu arrives à Paris, tu vas prendre un petit appartement de 50 mètres carrés, c'est super cher. T'as
Ouais.
50 voisins, les ascenseurs sont tout petits, les chambres d'hôtel sont tout petits, les voitures sont plus petites, tout est plus petit parce qu'il y a moins de place. Ici, il y a plus de place, donc il y a plus de. Tu sais, l'être humain, il est beaucoup plus heureux quand il y a plus de place. Hein.
Ben oui.
Tu le vois, là, c'est quand t'es en bateau. Je sais pas si t'as déjà fait du bateau dans la vie.
Oui.
T'as remarqué le comportement, t'es en bateau, souvent tu prends un autre bateau, hé, comment ça va? Tu lèves la main, tu les connais pas quand, ce genre-là. Mais tu les salues, t'es en voiture, tu cries sur tout le monde. Parce qu'il y a plus de monde, il y a du stress et des embouteillages, un espèce de truc un peu coincé.
Ouais.
L'être humain a besoin d'espace, on a besoin de pouvoir s'émanciper, d'air, on a besoin de, tu vois. Et plus tu mets un nombre de gens au même endroit, et plus les gens auront envie de se bouffer. C'est
Est-ce que
humain, je pense.
tu t'informes parfois sur le milieu de l'humour français versus le milieu de l'humour québécois que tu connais? Est-ce
Je
que...
m'informe un peu, oui et non, dans le sens où mon frère est producteur d'humour en France.
OK.
Je suis retourné aussi là-bas début 2022 pendant 6 mois pour commencer une carrière là-bas. Finalement, on a arrêté parce qu'on n'a pas du tout aimé la France. On s'est dit, ah, c'est pas pour nous, on est malheureux là-bas. Mais donc, je connais le milieu de l'humour de la France. Je connais les comedy clubs, je connais les
Ouais.
humoristes, je connais.
Est-ce qu'il y a une différence? Dans le milieu, il y a une
Bah.
différence, des façons de faire.
Bah, les façons de faire, je pense qu'on est plus travaillant au Québec ou plus efficace, mais les Français sont quand même bons maintenant. Ils ont rattrapé le niveau des Québécois. Et c'est un peu similaire, je pense. C'est un peu similaire, mais j'ai l'impression que c'est plus agréable de travailler au Québec que là-bas, parce que le public québécois est plus, je trouve, plus chaleureux que le public français, qui est plus froid, plus fermé. Tu vois, je pense que on rit comme on parle. Le français, il parle dans la gorge, il parle plus haut, il parle, tu vois, il parle comme ça, donc il rit pareil. Le Québécois, il parle dans le basse. Tu vois, les Québécois, ils parlent dans les gosses, ça vient d'en bas. Et quand tu ris, il y a quelque chose de plus chaleureux, de plus ressenti que le français qui est poigné dans la gorge.
Quand tu retournes en France, est-ce qu'on te voit comme un Québécois ou on te considère encore un Français?
Je pense, mon accent, c'est vrai que pour toi, il est français, mais il est un peu, il a penché sur le québécois. Fait que quand je rentre en France, c'est toujours quelques jours où j'ai un accent. Et après, je reprends le français, français, français.
OK.
Voilà. Et quand je suis ici, pour toi, je suis français, mais j'ai un petit accent. J'ai une façon de parler, j'ai des mots québécois que les Français ne comprendraient pas. Toi, je ne t'en rends pas compte parce que tu es québécois.
Ouais.
Mais il y a plein de choses que je dirais en France avec les mots québécois, les gens ne comprendraient rien du tout.
Donc, tu as dû t'adapter pendant, t'as fait, dans tes prestations que tu as fait en Europe, tu as dû t'adapter un peu pour revenir au Français de France, là.
Ouais, j'ai dû me réadapter à mon pays. Et puis ça va vite, hein, parce que je suis de là-bas. Mais oui, j'ai dû me réadapter à une façon de parler, à une façon de. J'ai l'impression qu'il faut leur parler un petit peu différemment, le public français que le public québécois. Je pense que le public québécois pogne beaucoup l'humour plus facilement que le public français.
Ouais.
Il y a un peu quelque chose comme ça.
Anthony Cavanagh, parce que tu parlais d'Anthony Cavanagh tout à l'heure, tu sais, a dû s'adapter. Il avait un accent très québécois. Puis par la suite, quand il est revenu de ses longs périples en Europe, il est revenu avec un accent. Puis pour nous, ça disait, ben voyons, il a oublié ses origines québécoises. Il sonne un peu prétentieux, mais c'est pas qu'il sonne prétentieux, c'est que lui a dû s'adapter. Il a dû adapter sa langue pour que les gens en Europe puissent le comprendre.
C'est exactement ça.
Ouais.
C'est exactement ça. Et puis, je pense que ça prend beaucoup plus d'adaptation quand tu es québécois. Et donc, et que tu vas en France, tu n'as jamais connu la France. Moi, je suis de là-bas, donc ça va plus vite, tu vois. L'adaptation, elle s'est faite beaucoup plus rapidement. Mais oui, je comprends ce que tu dis et tu as raison là-dessus.
Pendant tes années, bon, ton année aux États-Unis, après ça, t'es arrivé au Canada?
Je suis arrivé au Québec, ouais, je suis arrivé à Montréal. Je devais faire un stage de fin d'études, mon dernier stage, et je l'ai fait à juste pour rire. Pendant 6 mois. Et rendu là, on m'a dit, je me suis dit, je vais devenir humoriste, je le savais. Et il y a un producteur français qui m'a dit, je devrais rester au Québec. Reste un an, apprends l'humour ici et repars en France avec ce bagage-là. Et je dis, bonne idée. Il m'a dit, OK, il m'a donné mon plan de vie pour la prochaine année. Je suis resté ici pendant un an et je pense que je suis tombé amoureux. Et je me suis dit, ben non, c'est évident, je vais rester ici et je vais conquérir le Québec avec mes jokes.
Et est-ce que tu es passé par l'École nationale de l'humour?
Non. L'école de la vie, les bars, et puis se débrouiller, me créer un chemin
Ouais.
que je pouvais. Puis je pense, voilà, ça a été hyper formateur,
Ouais.
l'école de la vie. Donc j'ai pris mes cours à moi, j'ai pris des cours de diction, j'ai pris des cours de guitare, des cours de chant. Je me suis débrouillé. Je me suis débrouillé par rapport à ce que je voulais apprendre et ce que je voulais offrir au public. Et voilà, j'ai suivi mon cœur et j'ai fait le travail nécessaire de mon bord seul.
Est-ce que tu as pris le chemin le plus difficile pour parvenir à faire de l'humour au Québec? Parce qu'il y a des étudiants qui rentrent à l'École nationale de l'humour. Très rapidement, on est capable de détecter qui a plus de potentiel que d'autres. Et par la suite, il y a des galas qui sont présentés, puis il y a une visibilité qui est offerte par l'École nationale de l'humour. Jérémy Demé a dû passer par. Il a dû commencer à la base, là. Il n'y a personne qui connaissait Jérémy Demé, puis il a commencé par les bars et tout ça. Est-ce qu'avec du recul, tu ferais les choses différemment? Pour que ce soit peut-être plus facile au départ.
Je ferais exactement la même chose.
Ah ouais,
Ouais, je
c'est
ferais
intéressant.
exactement la même chose. Je ne crois pas que ce soit plus facile de passer par l'école de l'humour. Oui, tu as deux, trois contacts et tu as un gala à la fin de l'année. Mais la preuve, si c'était ça le chemin, 100% des gens qui font l'école de l'humour deviendraient des stars. Ce qui n'est pas du tout le cas. Tu as des années meilleures que d'autres, mais c'est pas vrai que je crois qu'ils sont 13, 14, 15 peu par année, je ne sais plus exactement.
Peu près.
Il n'y en a pas 15 qui deviennent des vedettes, là. C'est pas vrai. Donc ça te montre que ce qui est important, ce n'est pas l'école de l'humour ou pas l'école de l'humour. Et puis honnêtement, moi, je ne suis pas forcément pour ça. Moi, je suis pour le talent. Et puis pour... Tu vois, il n'y a pas d'école de l'humour en France. Je pense que le Québec, c'est un des seuls pays où il y a une école de l'humour. Non, ça n'existe pas. Tu n'apprends pas à être drôle. Tu n'apprends pas à être drôle. Non. Je pense qu'il faut regarder dans les humoristes québécois, mais je pense qu'il y en a une bonne... Il y a beaucoup qui n'ont jamais fait l'école de l'humour.
Puis qu'est-ce que ça fait, comment je pourrais dire? Est-ce que, parce que j'ai l'impression des fois que, puis c'est une impression à l'externe, là, parce que moi, je ne suis pas dans le milieu de l'humour, j'ai l'impression que c'est toujours plus facile quand tu fais partie des gens qui sortent de l'École nationale de l'humour versus le gars qui fait toute la tournée des bars et tout ça. Quand on approche les producteurs ou quand on approche, quand on est approché par la télé pour faire des spectacles, c'est pas plus facile en se créant des contacts par l'École nationale de l'humour?
Bonne question, peut-être. Peut-être à l'époque, mais plus maintenant.
Ouais.
Et dans un marché différent où tu as le web, tu as accès, tu peux créer ta communauté avec ton téléphone. Tu comprends? Et c'est ça qui compte, c'est d'avoir un public. Les producteurs, finalement, ils sont dépendants de l'artiste qui va se créer un public. Les producteurs ne pourraient pas faire leur métier s'il n'y avait pas d'artiste. Un
Exact.
artiste peut faire son métier sans producteur. Tu vois la différence?
Ouais.
Un producteur ne pourrait jamais travailler s'il n'y avait pas d'artiste. Alors que l'artiste, lui, il se crée sa communauté, il se book ses salles s'il a envie. C'est de la job, mais il peut le faire et il fait ses tournées. Tu peux faire une carrière d'humoriste sans producteur. Un producteur ne pourra jamais faire une carrière sans artiste. Donc, elle a la différence. Donc, aujourd'hui, je pense que l'idée, c'est de créer une communauté. Et de là, le reste va venir. Parce que les gens veulent, aujourd'hui, des gens qui ont une communauté. Les marques veulent s'associer à des gens qui ont une communauté. Les gens dans la salle vont venir parce que tu les as séduits sur Internet. La clé, elle est là. La clé, elle est de directement communiquer avec ta clientèle, qui sont ton public, finalement.
Ça fait combien d'années que tu fais de l'humour déjà?
19 ans.
Ça fait 19 ans. Est-ce que tu as constaté que les blagues sont de plus en plus difficiles à faire
Bah ouais.
sur les
Bah, c'est
sujets?
de plus en plus. Moi, j'ai jamais eu un style. C'est quoi le terme? Tu sais.
Trash.
Le quoi?
Trash.
Pas trash, non? Parce que trash, aujourd'hui, tu peux être trash et tu ne te feras pas. Ok. Tu sais, quand il y a un sujet, qu'il y en a qui sont pour, qui sont contre, c'est quoi le mot? J'ai perdu le mot. Tu sais, mettons le vaccin. Il y en a qui sont pour, d'autres qui sont
Ouais,
contre, ceux qui
ouais.
sont pour, ils vont crier ceux qui sont contre. C'est quoi le mot? C'est pas un clivage, c'est.
On va le trouver ce
Tu
mot-là.
vois, quand il y a un sujet chaud qui va vraiment séparer les
Qui peut
gens
créer
et
la
ça va.
polémique?
Polémique.
Ouais.
Ok, polémique. C'est pas ça le mot, mais on va le retrouver. Mais j'ai pas des sujets polémiques, moi. J'ai pas des sujets. J'ai des sujets niaiseux de la vie de tous les jours. J'ai pas des sujets apolémiques. Donc, j'ai pas été très. Entre guillemets, castré par le fait que l'humour change. Tu vois, donc j'ai pas un humour qui choque. J'ai pas un humour qui va séparer les gens. Après, t'aimes ou t'aimes pas, ça c'est une question de goût, mais ça vient pas séparer les gens.
Des sujets à controverse, des sujets à débat, des sujets à discussion. C'était pas
C'est
ça les mots
ça.
qu'on
J'ai
cherchait.
pas de sujet à controverse.
Ah voilà.
À moins de dire une connerie un jour où là, c'est voilà, ça peut être humain, mais j'ai pas un sujet, j'ai pas à dire, ok, le vaccin, ouais, il me semble que je serais pour moi. Alors finalement, je suis contre. Et là, d'un coup, ah, tous ceux qui sont opposés, ils viennent te. Tu vois? Ou alors, quand tu parles de politique, ou quand tu parles de couleur de peau, ou quand tu parles de religion, c'est des sujets qui peuvent vraiment chauffer, tu vois?
Ouais.
C'est très délicat. Et moi, ce n'est pas des sujets qui m'intéressent, donc j'ai jamais eu ce problème-là.
Comment tu as réussi à créer le personnage de Jérémy Demé sur scène? Est-ce que tu as dû choisir les angles
Non.
pour bien déterminer ton personnage?
C'est devenu ce que je suis dans la vie. Ce que je suis sur scène, c'est ce que je suis dans la vie. Ce que j'écris dans mes livres, c'est ce que je suis dans la vie. C'est une extension de moi. Alors des fois, bien sûr, je le grossis. Hein. Je suis pas tout le temps en train de faire des jokes quand je suis à la boulangerie. Mais c'est le genre de joke que je ferai à mes amis ou quand j'en fais, je vais aller là. Donc finalement, j'ai pas eu à créer un personnage. J'ai juste à exprimer une partie de moi sur scène ou une partie de moi dans mes livres ou une partie de moi quand je fais des conférences. J'adore faire des conférences. Et ça n'a jamais été problématique ou jamais eu à me poser la question. En fait, je me suis posé au début de ma carrière en disant, ah ouais, il faut avoir un personnage, il faut être différent des autres. Mais je pense que c'est la mauvaise façon de penser. La meilleure façon de penser, c'est d'être toi et de trouver comment tu veux dire ce que tu as à dire
Ouais.
et le reste, ça vient naturellement.
Ben moi, c'est ce que j'ai remarqué. Je vais t'avouer que Jérémy Demeux, je le voyais passer à la télé, je voyais les annonces de tes spectacles passer, je les entendais à la radio aussi parce que tu représentes des commerces, mais je connaissais pas Jérémy Demeux, la personne. Quand je t'ai eu en entrevue pendant à peu près une vingtaine de minutes, j'ai vu que derrière l'humoriste, il y avait quelqu'un de très profond, puis on n'avait pas abordé tout ce qu'on a abordé dans les dernières minutes. minutes, mais j'ai vu que tu es un gars très réfléchi. Puis souvent, c'est le fun, ce type de personnage-là, parce que tu dis, OK, c'est possible de réussir sans nécessairement exagérer sur... parce qu'on voit qu'il y a certains humoristes qui vont mettre l'accent sur leur costume, leur façon de s'habiller. On voit qu'il y en a certains qui vont faire... qui vont adopter une coiffure particulière pour attirer l'attention. Toi, tu es juste un gars qui se présente sur scène avec tes histoires. Je trouve ça très intéressant de ta part de dire non, moi, j'ai pas à me créer de personnage, à me mettre des souliers de plein de couleurs ou me faire une coiffure un peu bizarroïde. Je vais juste être moi-même. C'est le fun de voir que ces gens-là peuvent encore tirer leur épingle du jeu dans l'industrie du spectacle.
Ouais, tu sais, je pense que ça, c'est ma vision, hein, mais vouloir se mettre des perruques ou des choses ou des habits flamboyants, c'est vouloir compenser ou vouloir te faire remarquer, mais je pense pas que ce soit la vraie essence de ce que tu es. Je pense que dans la vie, on attire à nous ce qu'on est, en général. On n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on est. Donc, tu vas attirer le public qui est en résonance avec toi. Donc, me faire des cheveux olé olé ou ci ou ça. Je sais pas, il y en a qui le font, faites-le. Moi, je pense que les gens vont raisonner avec ce que t'es en tant qu'humain. Ils vont connecter avec ce que t'es en tant qu'humain, avec ta façon de le faire. Ils vont ressentir, on ressent les gens inconsciemment.
Ouais.
Tu sais, des fois, t'es avec quelqu'un, tu vois, il y a un bon feeling, je me sens bien. Et des fois, c'est comme, non, ça marche pas. Et ça, tu veux pas le calculer. C'est juste, c'est comme ça. C'est comme le charisme. Charisme, c'est un peu ce quelque chose un peu imperceptible qui dit, Caroline, lui, il m'attire, ou elle m'attire, et lui, non. Mais ça, c'est dur à expliquer. Et je pense que c'est ça, l'art. L'art, tu donnes ce que t'es, t'exprimes ce que t'es. Comme dans la vie, d'ailleurs.
Ouais.
Tout ce que tu fais, c'est exprimer ce que t'es à travers tous tes vecteurs. Et que ce soit la radio, comme tu fais, ou les podcasts. Et donc, je pense que c'est ça que les gens ressentent. Et puis, tu vois, je crois que je veux avec le minimum sur scène, c'est un micro, c'est 3-4 lumières, puis si je vais faire rire les gens avec ce que je suis, finalement.
Dans les entrevues qu'on fait, quand tu te présentes pour faire la promotion de tes spectacles et tout ça, est-ce que tu te fais régulièrement poser toujours les mêmes questions ou, je sais pas, moi, on peut aborder d'autres angles avec Jérémy Demé? Parce que moi, quand je te reçois en entrevue, je pense qu'on n'avait même pas parlé de l'humour, en fait. On avait parlé de plein de sujets qui nous passaient par la tête à ce moment-là. Et je me suis dit, peut-être qu'un Jérémy Demé qui se présente comme co-animateur d'une émission de radio, animateur d'une émission de radio, ça pourrait être plus profond que le simple Jérémy Demé qui fait juste de l'humour. Est-ce que t'es pas tanné des fois de te faire caster comme quoi t'es un humoriste et rien d'autre?
Bah, en fait, ça, c'est vrai et pas vrai. Tu sais, j'ai écrit des livres
Oui.
sur le développement personnel et j'en ai quand même vendu 150 000, alors qu'au Québec, pendant 5 000, c'est un best-seller. Et
Ouais.
je ne donne pas un chiffre pour braguer, je te donne un chiffre pour réaliser qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le Jérémy Demey plus spirituel, plus profond. Et il y a d'autres qui vont connaître celui qui est sur scène, qui est plus léger, plus immature, plus niaiseux. Et ces deux parties de moi qui sont pas opposées. Qui sont vraiment complémentaires. Il y a le Jérémy niaiseux, immature, épais. Il y a le Jérémy plus spirituel, plus profond, plus réfléchi. Mais les deux sont pas souvent ensemble. C'est juste deux parties de moi différentes qui peuvent être complémentaires. C'est ça que je fais dans mes spectacles. Donc, je pense que ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont connaître le gars qui fait des pubs, d'autres qui vont connaître juste celui qui a écrit des livres, d'autres qui vont connaître juste celui qui fait des conférences, d'autres qui vont connaître celui qui est sur scène. Et je pense, peu importe. Peu importe d'où les gens me viennent, peu importe comment ils me connaissent, peu importe pourquoi, je m'en fous. Moi, je fais ce que j'aime, je donne de la joie. Et puis après, les gens aiment pas, me connaissent pour ci, pour ça. T'as pas vraiment d'importance pour moi.
Je parlais avec une artiste internationale qui était de passage à Québec. Je l'ai pas reçue sur les zones de boulevard, malheureusement, mais ce qu'elle me racontait, elle, c'est que lorsqu'elle faisait des entrevues, elle avait des sorties d'albums et tout ça, c'était tout le temps des entrevues en surface avec toujours les mêmes questions. Il n'y avait jamais de... Tu sais, comment tu te sens, toi, là, actuellement? C'était tout le temps, toujours en surface. Qu'est-ce que ça dit dans cette chanson-là? Pourquoi tu as écrit cette chanson-là? Est-ce que tu préfères cette chanson-là? C'est toujours, toujours les mêmes questions. Puis je trouve qu'il y a des artistes comme toi qui sont des humoristes, mais puis des auteurs, tu nous l'as dit, mais qui sont plus intéressants à découvrir dans leur ensemble que juste constamment rester en surface.
Bon, c'est les gens qui ont fait un certain cheminement qui ont ça. Ceux qui ne l'ont pas fait, ben, ils n'ont pas accès à ça. Mais je pense que n'importe quel être humain, toi, moi, ton voisin, qui prend le temps de faire ce cheminement-là,
Ouais.
intérieur, aura accès à ça.
Puis ton côté de développement personnel, tu l'as découvert comment?
En faisant une dépression. Un jour, je fais une dépression, je frappe un mur. Et donc, quand j'avais 2000 ans, 2009. Et donc, je me dis, soit je prends des antidépresseurs, soit je trouve un autre chemin. Et puis, que je ne connaissais pas. Donc je me suis ouvert à ce chemin-là. Et c'est devenu quelque chose que j'ai, qui m'a beaucoup attiré. Qui m'attire encore aujourd'hui au passage. Parce que j'ai découvert comment devenir plus consciencieux. J'ai découvert que finalement, ma réalité était gouvernée par ma... En fait, ma personnalité, excuse-moi, crée ma réalité. C'est ça que j'ai compris. Ma personnalité crée ma réalité. Et c'est quoi ma personnalité? C'est ma façon de penser, ma façon de m'exprimer, ma façon d'agir, pardon, et ma façon de me sentir. Ça, je l'ai appris d'un gars qui s'appelle Joe Dispenza, que j'aime beaucoup, que je recommande à des auditeurs. Et en gros, si tu arrives à changer ta personnalité, tu changes ta vie. Tu vois, souvent on dit j'aimerais que les choses changent, mais on ne change pas. Si tu veux que les choses dans ta vie, elles changent, il faut que tu changes quelque chose. Tu es obligé de changer pour que les choses changent. Si tu veux résoudre un problème avec le même niveau de conscience que tu as créé ce problème-là, tu ne vas jamais le résoudre. Par contre, si tu changes, tu arrives à changer ta façon de penser, ta façon de t'exprimer, ta façon de te sentir, les choses vont changer. Et donc, j'ai appris ça. Et puis voilà. Et je pense que j'ai eu assez à ça. Et pour répondre à ta question, je pense que la plupart des artistes vont faire des entrevues courtes. Et dans les entrevues courtes, tu n'as pas le temps d'entrer dans la profondeur. Mais moi, personnellement, dès que je rentre dans des entrevues plus longues, comme avec la tienne, et ben là, souvent, ça rentre là-dedans.
Ouais.
Parce que je pense qu'on est intéressé. En tout cas, les gens comme toi, qui sont curieux, même si je ne sais pas à quel point tu es intéressé par cette conscience et ce cheminement intérieur, mais tu as l'air curieux en tout cas. Tu as l'air curieux et tu as l'air ouvert à en parler. Donc tous les gens comme toi qui sont curieux ou ouverts, en général, en ce qui me concerne, ça termine là.
Ouais. Mais j'ai l'impression peut-être que notre société a peur de souffrir. Pour les gens qui auraient intérêt justement à aller visiter là, le côté développement personnel, il y en a qui sont hésitants parce qu'ils se disent, je vais ouvrir des portes. Tu nous parlais de ta demi-sœur tout à l'heure. Je vais ouvrir des portes que je ne veux pas nécessairement ouvrir, mais c'est comme un boulet qu'on traîne à notre pied. À un moment donné, il va falloir souffrir pour le retirer, ce boulet-là. Pourquoi on se traite avec des pilules aujourd'hui? C'est parce que ça, il y a beaucoup moins de souffrance à se traiter avec des pilules. On parlait du médicament Ozempic, là, il y a de ça quelques mois. Tu sais, je veux dire, c'est le fun, c'est une pilule miracle qui va te faire maigrir, mais tu n'auras pas besoin de faire attention à ton alimentation, puis tu n'auras pas besoin d'aller faire de l'exercice puis de brûler des calories. Tu vas juste prendre la pilule. Mais alors qu'on aurait tellement intérêt des fois à, oui, on va ouvrir cette porte-là, on va souffrir, mais après ça, c'est fini, on va être léger, léger, léger.
Pas que le médicament, qui est un moyen, vient pas résoudre le problème, il vient le cacher.
Exact.
Il vient le cacher. Cette pilule que tu me parles là, elle marche peut-être, mais j'imagine qu'il y a beaucoup de chimiques là-dedans, puis j'imagine que ça va maganer autant que ça te fait du bien. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je sais plus ce que je voulais dire, mais
C'est la souffrance, les peurs, les gens ont peur de souffrir, Jérémy.
ça. Si tu veux changer la qualité des pommes d'un arbre, il faut que tu ailles changer les racines, et non que tu arroses en surface. Il faut que tu ailles guérir les racines pour changer les pommes. Il faut que tu prennes soin des racines pour que les feuilles soient plus vertes. C'est ça le secret. Et il est assez simple, hein. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose. C'est assez simple. Mais pourtant, c'est le seul chemin. C'est le seul chemin et effectivement, il fait peur. Ça fait peur, faire face à soi même. Faire face à sa douleur. Ce n'est pas un chemin qui est populaire. Parce que c'est plus simple de vivre sa vie et puis de pas aller là-dedans. Et puis c'est long, puis ça peut être chiant, puis ça peut être coûteux aussi. Tu sais, les thérapeutes, tout ça. Prendre le temps de le faire, ça peut. Voilà quoi. C'est un chemin qui peut être périlleux, je pense. Mais je continue à le dire, moi qui l'ai parcouru, comme tous ceux qui l'ont parcouru, c'est à moyen terme et à long terme le plus gratifiant. Je peux le dire, hein, j'étais dépressif avec des idées noires. Et aujourd'hui, je suis joyeux et je suis léger. Et je connais les deux états. Je connais c'est quoi vouloir prendre des pilules. Je connais c'est quoi avoir envie de mourir. Et je connais c'est quoi me sentir léger et joyeux. Je connais les deux opposés. Et crois-moi, celui-là, le côté joyeux est tellement plus agréable et simple. Et tout est plus simple après. Mes relations sont plus simples. Mon travail est plus simple. Ma santé, c'est plus simple. Tout est plus simple. Mais ça prend d'aller faire ce chemin-là.
Jérémy Demé, est-ce que je peux te garder encore 2-3 minutes?
Ouais.
Marceau le soir. Marceau le soir. Marceau le soir. Le soir.
On est avec l'humoriste Jérémy Demé ce soir. Il est déjà avec nous depuis plus de 50 minutes et il a accepté de passer encore un petit peu de temps avec nous. On ne doit pas être si pire dans nos questions. Jérémy Demé est humoriste. Il est aussi auteur, conférencier avec la belle gang d'Horizon. Dans tes conférences, c'est quoi les thèmes que tu abordes pour les gens qui sont à ces conférences-là?
Écoute, je parle de différents outils, des différents outils qui m'ont justement permis d'accéder à cette vie-là. Je parle de volonté, je parle de zone de confort. Je parle d'accepter l'humain que je suis dans sa complétude. C'est-à-dire, j'ai pensé que la plupart de ma vie, j'ai pensé que j'étais juste une belle personne. Et je pense qu'on fait un peu tout ça. On a un masque social pour se faire aimer, pour se faire accepter. Donc, on veut juste voir le beau et montrer le beau aux autres de ce qu'on est. Donc, j'ai appris à accepter que j'étais autre chose que juste une belle personne.
T'es pas si beau que ça, là, pour les filles qui se le
Non, non,
demandent.
physiquement, je suis correct, mais je veux dire, intérieurement, je pense que je suis aussi beau que laid, quoi.
Oh.
J'ai beaucoup de... Et donc, j'ai dû apprendre à accepter ça. Et voilà, et je parle de différentes techniques qui m'aident à guérir tout ça. Je parle d'hypnose, je parle de tous ces sujets-là qui m'ont aidé et qui continuent de m'aider aujourd'hui.
Tu parles de l'hypnose.
Ouais, j'ai fait de l'hypnose pendant longtemps. Ouais, j'ai fait de l'hypnose avec
Est-ce que
une...
tu te faisais hypnotiser ou c'est toi qui hypnotisais?
Non, je me faisais hypnotiser par une psychologue.
OK.
Ouais, c'est génial l'hypnose. C'est un peu comme si ton cerveau était un disque dur d'ordinateur et l'hypnose un antivirus. C'est un peu comme ça que j'aime le décrire. Et donc c'est un peu un travail qui se fait tout seul une fois que tu enclenches ça et ça vient t'aider à processer et à comprendre des choses que tu n'avais pas compris avant.
Puis ça fonctionne à chaque fois?
Ben, dans mon cas, ouais. Dans mon cas, ouais. Et donc ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Ça a été un des outils qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, que je suggère aux gens
Parce
s'ils
que
veulent.
l'hypnose, c'est prouvé scientifiquement que ça fonctionne pour certaines thérapies, entre autres. Mais je me souviens, moi, d'une fois où ça m'avait marqué, c'est un auditeur qui m'avait écrit pour me dire, Yann, moi, mon dentiste fait de l'hypnose. Lui, il ne veut pas se faire geler, comme on dit. Il ne veut pas se faire geler les gencives pour pouvoir avoir des traitements pour les dents. Donc, il se fait hypnotiser et il ne sent, selon lui, absolument rien.
Exact. Et ouais, ça a marché pour moi. Il y a des femmes qui accouchent sous hypnose. Ouais, c'est vraiment quelque chose un outil qui mérite d'être découvert.
Okay. Et des conférences, t'en fais régulièrement?
J'en fais régulièrement. Ouais. Tu vois, là, j'en ai fait deux back à back, dont une à Témiscamingue et une à. J'ai oublié le nom de la ville. Mais oui, je peux en faire deux par semaine ou zéro. Ça dépend des moments quand on me book, quand les gens ont envie. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Ça me plaît beaucoup de parler aux gens de tout ça.
Tes prochains spectacles, là, je vois qu'on est quelle date aujourd'hui? Non, ça, c'est déjà passé. Fait que ton prochain spectacle à Québec, c'est le 5 juin?
Non, c'est demain à Brossard.
Oui, mais à Québec, c'est le 5 juin, c'est ça?
Ah oui, Québec, c'est 4 et 5 juin.
4 et 5 juin, OK. Ben, d'après moi, il ne doit plus rester de billets pour le 4 parce qu'il reste juste le 5 à la salle Albert Rousseau. Donc, on peut aller directement sur ton site jérémydemay.ca. Ta thématique pour ce qui est de ce spectacle-ci, le thème de ce spectacle-là, c'est quoi?
Ça s'appelle Naturel. Tu vois,
Naturel.
regarde
Bon.
l'affiche. Enfin, tous les temps, ils ne le verront pas parce que c'est audio, mais elle est derrière moi. C'est vraiment
Est-ce que c'est toi qui es à poil sur ton
Ah
affiche?
ouais,
Hein?
ah ouais, c'est moi. Et puis tu vois tout, mais en même temps tu vois rien. C'est écrit de sorte que tu vois absolument rien. J'ai fait ça à Bromont, j'ai fait dans le lac à Bromont. Voilà, c'est réaliser que justement j'ai enlevé ce masque social-là et dire je suis pas qu'une belle personne. J'ai d'autres choses à l'intérieur de moi. Alors je suis pas en train de livrer que j'ai un plan de cocaïne en Colombie. Hein, on va pas là-dedans.
Non.
Mais je suis pas juste gentil, sympa, généreux toute ma journée. Non, des fois je suis grincheux, je suis frustré, je suis contrôlant, je suis plein d'autres choses que juste une belle personne, tu vois.
Jérémy Demé, ça a été un plaisir de discuter avec toi dans la dernière heure. Je te souhaite d'avoir une maudite belle vie. T'es un bon gars, puis les bons gars méritent des belles vies. Ton prochain spectacle à Québec, à la salle Albert Rousseau, c'est le 5 juin prochain. Je ne sais pas quel jour que ça tombe, là, le 5 juin. Je ne suis pas capable d'avoir accès à mon calendrier. Mais si ça te tente de passer en studio le midi, ben t'es invité dans mon show du midi quand tu veux. L'invitation est là.
T'es fin, man. Et là, tu peux venir voir le show si tu veux, avec plaisir, je
Ah,
t'invite.
mais mes billets sont déjà achetés. Fait qu'on va se
Ah
voir, c'est
bon?
sûr. Ben oui.
Tu viens quel soir?
Le 5 juin.
Ok, bah alors on se voit le 5 juin. Bah viens me voir un peu avant là, j'ai envie.
Parfait. Ben on se donnera rendez-vous d'ici là. Fait que je te souhaite de passer une belle soirée. Merci.
À toi aussi, même prends soin de toi.
Salut, bye bye. Marceau, le soir. Marceau.